Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais dans les lectures, il y a un petit mot qui revient très souvent. Il revient 5 fois. C'est le mot nouveau. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Et puis à la fin de la deuxième lecture, on a cette phrase: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et puis dans l'évangile, on a le commandement nouveau. Donc ça veut dire peut-être que cette phrase, voici que je fais toutes choses nouvelles, il faut la prendre peut-être un peu plus particulièrement au sérieux à travers nos lectures. En fait, il revient 4 fois ce mot dans la deuxième lecture. On est au chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est-à-dire à l'avant-dernier chapitre de la Bible. On est dans le dernier livre de la Bible. On s'attend simplement, comme dans un roman, on a lu toute la Bible, à la fin on s'attend finalement à voilà, que ce soit la fin, et l'une des dernières paroles qui retentit, c'est « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Attendez, je pensais que c'était la fin. Non, non, je fais toutes choses nouvelles. Et puis on peut se poser la question, voilà, qu'est-ce qui va avoir de nouveau? Qu'est-ce qui doit changer finalement? Voici que je fais toute chose nouvelle. Finalement, c'est tout. Tout doit changer. Alors, on peut rentrer un peu dans une angoisse, dans des complications. On se dit, mais en fait, tout changer, on ne va pas tout changer. Quand on regarde notre vie, elle est faite de grandes habitudes. Notre manière de nous lever le matin, notre première action le matin, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est toujours la même chose. L'heure à laquelle on part au travail ou à l'école, toujours la même heure. Je ne sais pas, nos activités dans la semaine, toujours les mêmes. Notre place à l'église, peut-être aussi toujours la même. Vous voyez, on a nos petites habitudes, nos petits rituels qui nous, voilà, quelque part, qui nous donnent un certain confort, une certaine sécurité, une certaine paix. Et qui nous permettent vraiment d'avancer avec Dieu. Je ne dis pas que la bonne habitude à prendre, c'est la prière, par exemple. Donc toutes les bonnes habitudes ne sont pas à rejeter d'un revers de la main, mais elles sont à garder et voilà, à discerner quelles sont les habitudes, nos bonnes habitudes qu'il faut conserver et qui vont nous maintenir. Et puis en même temps, on regarde notre monde, notre société, qui court après la nouveauté. Le dernier téléphone, la dernière voiture, les derniers fringues, les derniers ceci, les derniers cela. Et puis finalement, on sait que c'est dépassé 2, 3, 6 mois après, tout ça s'est dépassé. Et donc en fait, dans notre monde, on est dans un flot incessant entre nouveauté, innovation et puis vieillissement, dépassement. On est dans cette marche-là. Et on est pris dans cette grande machine à laver où on est tous dedans, où on va dans une course à l'innovation et en même temps, on sait que ça va être dépassé. Quand on regarde ce mot nouveau dans la Bible, en fait, ce mot est très ancien. C'est paradoxal, hein? Mais le mot nouveau dans la Bible, c'est très ancien. Quand on regarde les premières fois où il apparaît chez les premiers prophètes. Les premiers écrits de la Bible, ce sont les prophètes. Isaïe, Osée, Jérémie, Ézéchiel, c'est 8 siècles avant Jésus, on annonce déjà des choses nouvelles. On dit Dieu va faire des choses nouvelles dans la vie du peuple et dans ta vie à toi. Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau? Une nouvelle création, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Il va donner un nouveau temple à Jérusalem et au peuple. Il va construire une nouvelle Jérusalem. Il va conclure une nouvelle alliance avec son peuple. Et pour ça, il va nous donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. Donc Dieu vient renouveler les choses. Il y a les choses anciennes, voilà, il y a l'Ancien Temple, il y a l'Ancien Testament, etc. Très bien, mais il va les renouveler. Et puis en fait, avec Jésus, ça va encore s'accentuer. Lui, c'est le nouvel Adam. On va l'appeler le nouveau Moïse, le nouveau David. qui donne un enseignement nouveau, avec une autorité nouvelle. Et puis finalement, il est venu donner cette vie nouvelle, et en tout cas cette capacité pour nous qui sommes baptisés, cette capacité à renaître, et donc à faire venir en nous cet homme nouveau. Qu'est-ce que ça va être la nouveauté pour nous ? La nouveauté, ça va être de passer de l'homme ancien à l'homme nouveau. Voyez, quand on regarde notre Bible, on sait qu'il y a l'Ancien Testament et qu'il y a le Nouveau Testament. La Bible, pour nous, elle est signe qu'il y a un passage de l'Ancien au Nouveau. Et donc, pour moi, quand je passe de l'Ancien au Nouveau Testament, je me dis, eh ben, c'est le reflet de ce qui doit se passer dans ma propre vie. Je dois passer de l'homme ancien à l'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'homme ancien ? C'est l'homme qui vit pour lui et qui regarde la terre. L'homme nouveau, c'est celui qui sait qu'il est sauvé par le sang du Christ, qui vit pour Dieu et pour les autres. Il n'est plus centré sur lui-même, il est centré sur Dieu et sur les autres. Il vit pour Dieu et pour les autres, et il regarde le ciel, il pense au ciel. Et en fait, notre réalité, c'est qu'on est dans ce passage de l'ancien au nouveau, et qu'on vit les deux à la fois. Il y a une petite phrase de Paul aux Corinthiens qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur, l'homme ancien, va vers sa ruine, l'homme intérieur, l'homme nouveau, se renouvelle de jour en jour. » Il y a un homme ancien en moi qui va vers sa ruine, et un homme nouveau en moi qui est en train de germer, qui est en train de se développer, qui est en train de grandir, qui est en train de se déployer en moi. Alors, comment Dieu va faire toute chose nouvelle dans notre vie ? En fait, si on est baptisé, ce travail a déjà commencé. Même si tout n'est pas visible, ce travail a déjà commencé. Donc, c'est une certitude que Dieu travaille dans votre cœur. Voilà, si vous essayez de vivre un tant soit peu les grâces de votre baptême, Dieu commence déjà, Dieu fait toute chose nouvelle dans votre vie. Alors, deux choses que Dieu va utiliser. Il va faire mourir ce qui en moi appartient au monde. Il va faire mourir cet homme ancien. Vous voyez, c'est un peu la partie douloureuse dans notre vie. Quand on parle de la conversion, ça ne nous fait pas plaisir. C'est quelquefois douloureux. Et donc, on doit passer par cette étape-là, par une certaine mort à nous-mêmes. Il y a certains spirituels qui diront, voilà, la mort de notre volonté propre, ben, il faut la faire un peu mourir pour pouvoir dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, comme à l'agonie. Qu'est-ce qui doit mourir en nous ? Ben, c'est tous nos petits égoïsmes, voyez ? Toutes nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, tous nos attachements, tout ce qui finalement donne pas la vie en moi. Voyez, si je recherche sans cesse la gloire des hommes, ben, je sais pertinemment que ça donne pas la vie en moi, que c'est pas ça l'homme nouveau. Et donc quelque part, tout ça, ben, ça doit mourir. Ça doit partir vers sa ruine. Et donc, on va se poser cette question, parce que Dieu a besoin de notre collaboration. Il y a cette phrase de saint Augustin qui dit « Dieu t'a créé sans toi, mais ne peut pas te sauver sans toi. » Il t'a créé sans toi, voilà, il t'a voulu, toi, il t'a choisi, mais il ne peut pas te sauver sans toi, c'est-à-dire sans ta collaboration. Et donc, on va se poser comme question, pour cette partie plus douloureuse, quelle est la mauvaise habitude que je voudrais voir mourir dans mon quotidien, dans ma vie ? Quelle est la mauvaise habitude que je veux voir mourir ? Vous voyez, je suis toujours en train de critiquer les autres, je suis toujours en train de me plaindre, etc. Eh bien, c'est cette mauvaise habitude, ben tiens, ça c'est bien enraciné en moi, ben, j'aimerais bien que cette mauvaise habitude-là, elle soit pas là tout le temps dans ma vie, mais qu'elle meure en moi. Et la deuxième chose que Dieu va utiliser pour infuser cette vie nouvelle en moi, c'est qu'il va faire naître une vie nouvelle. Comment on va la discerner ? Ça, c'est la partie joyeuse, c'est la partie qui va nous réjouir, qui va nous stimuler. On va se poser trois questions. Est-ce que j'ai rencontré Jésus ? Qu'est-ce que c'est que rencontrer Jésus ? C'est lui d'y avoir dit, à un moment donné dans ma vie, « Oui, viens en moi, viens dans ma vie, prends la place qui est la tienne. » C'est ça, avoir rencontré Jésus. C'est avoir fait cette expérience, que ce soit une expérience sensible ou pas. C'est lui avoir dit à un moment donné, « Mais viens dans ma vie, viens, prends ta place. » Parce que je sais que tu dois avoir la première place dans ma vie. Je suis baptisé, je l'entends tous les dimanches à la messe, que tu dois avoir la première place. Alors à un moment donné, il y a cet acte, cette parole intérieure, « Viens dans ma vie. » Donc, est-ce que j'ai rencontré Jésus ? Est-ce que je lui ai dit à un moment donné que ma vie devait basculer à travers cette rencontre ? Autre question, c'est comment est-ce qu'on va planter ces bonnes habitudes ? Quelles bonnes habitudes je veux voir bien enracinées, bien déployées dans ma vie ? Il y a des mauvaises habitudes que je dois faire mourir, mais il y a aussi une bonne habitude que j'ai envie de prendre. Peut-être que je n'ai pas la bonne habitude de prier tous les jours. Ça m'arrive de prier, d'accord ? Mais peut-être que des fois, il y a des fois, j'oublie dans la journée. Ben, en fait, la première bonne habitude, comme chrétien que je dois prendre, ben, c'est de prier un petit moment Jésus tous les jours, au quotidien. Voilà. Il y a plein d'autres habitudes sur lesquelles on peut un peu se concentrer. On va en prendre une seule. Et puis un troisième point pour cette partie, c'est que il nous faut vivre le commandement nouveau. Voilà. Voici mon commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va se dire, mais on sait très bien qu'il faut aimer notre prochain. Attends, c'est pas ce que Jésus dit ici. Il dit pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, il dit comme je vous ai aimé, pas comme toi-même, comme je vous ai aimé. Alors qu'est-ce que ça veut dire comme je vous ai aimé, comme Jésus nous a aimé? Il nous a aimé jusqu'à donner sa vie sur la croix. Et on sait très bien, comme il le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc on sait très bien que Jésus, il a été jusqu'au bout de l'amour. Il a tout fait dans l'amour, il a été jusqu'au bout. Et donc il nous donne un exemple, comme je vous ai aimé. Il nous donne un exemple. Mais à travers ce comme, il faut lire aussi un par. Par la force de mon amour, vous allez pouvoir aimer comme je vous ai aimé. Vous n'allez pas aimer comme je vous ai aimé sans moi. Il vous faut une grâce, il vous faut une force spéciale, une force qui est nouvelle. Et ça s'appelle l'Esprit Saint. Vous voyez, on a pris 40 jours pour nous préparer à Pâques. Eh bien, on a 50 jours pour nous préparer à la Pentecôte, pour nous préparer à cette grande nouveauté. Vous voyez, à un moment donné, on sait très bien qu'à la résurrection, notre vie, elle doit basculer. Eh bien, on doit apprendre à l'école de Jésus, à l'école de l'Esprit Saint, à accueillir cette force nouvelle à travers cette longue préparation, ces 50 jours qui nous préparent à la Pentecôte, à accueillir cette grande nouveauté. On va retenir deux questions. Quelle est la mauvaise habitude que je veux voir mourir dans mon quotidien, dans ma vie ? Et quelle est la bonne habitude que je veux voir se déployer ? Voyez, et si on n'est pas très patient avec nous-mêmes, on peut se dire, et on peut dire aux autres, mais attention, je suis en travaux. Dieu fait toutes choses nouvelles. Je prends ce panneau, attention travaux, sois patient avec moi. Ça prend du temps. Et moi aussi, j'ai à être patient avec moi-même. Amen.